Séminaire de politique, 1er mai 1984, Saint-Joseph, Père Philippe.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses.
Un regard critique, soit à chaque point on essaie de voir en philosophie réaliste comment on peut entreprendre une philosophie politique. D'abord, le contexte. Hobbes est un philosophe anglais du XVIIe siècle. Il aime son pays, certainement, et il est conscient que son pays est dans une période difficile. Et il a raison, parce que ça se terminera par une guerre civile. Et il veut essayer d'empêcher cette guerre civile en montrant la grandeur de la société et tout ce qu'on devait à la société civile. Et pour montrer la grandeur de la société civile, il part de sa conception de l'homme, montrant que c'est la société qui sauve l'homme. On retrouve un peu la conception de Machiavel qu'on avait la dernière fois. Le point de départ, c'est que l'homme est mauvais et que c'est la société civile qui le sauve. Alors cette conception de l'homme, c'est ce qu'il appelle, lui, l'état de nature. C'est pas tout à fait la même chose que chez Rousseau, parce que chez Rousseau, il parle aussi de l'état de nature, mais c'est l'inverse exactement. Disons que pour Rousseau, l'état de nature, c'est ce qui est de bon, mais c'est encore beaucoup plus imaginatif que chez Hobbes, parce que c'est l'homme primitif, c'est l'homme qui est sans la société, et c'est la société qui corrompt l'homme. C'est-à-dire que chez Hobbes, c'est l'homme qui est mauvais dès le point de départ et c'est la société qui le sauve. Alors cet état de nature, c'est finalement une vision de l'homme, c'est une vision philosophique, entre guillemets, de l'homme. Alors la première chose, c'est la fin de l'homme, la finalité de l'homme. Pour Hobbes, la finalité de l'homme, c'est sa conservation, c'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse tout pour se conserver en vie. À mon avis, c'est une petite réduction de l'homme à l'animal, parce que l'animal, en fait, sa finalité, c'est sa conservation. C'est sa conservation parce que pour l'homme, ce que veut l'homme, c'est son propre intérêt. Quand l'homme veut quelque chose, c'est toujours pour lui-même. Dans une philosophie réaliste, on ne pense pas tout à fait ça. Au contraire, l'homme, quand il veut quelque chose, il ne crée pas son bien en le voulant. Tandis que pour Hobbes, l'homme crée son bien en le voulant. Dans le cas de Hobbes, la finalité, c'est finalement lui-même, tandis que pour l'homme, c'est quelque chose qui est au-delà de l'homme. Une philosophie irréaliste. Et alors, toute la vie de l'homme se passe en fait à chercher les moyens en vue de cette conservation. Alors là, on est dans une vision que les philosophes appellent la vision individualiste. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas d'amour entre les hommes, la finalité de l'homme, ce n'est pas l'amour ni la contemplation, c'est au contraire soi-même. Alors la volonté de l'homme, c'est en réalité de chercher les moyens en vue de cette conservation, qui est la fin. Alors le premier moyen, c'est la paix. Parce que s'il n'y a pas la paix entre les individus, si les individus se tapent dessus, il n'y a plus de conservation. Donc c'est le premier moyen à rechercher. C'est ce qu'il appelle les lois de nature. Tous les moyens, il y en a 20 en tout, qu'il cite. Et tous les moyens sont sont des lois de nature, c'est-à-dire, en fait, ce que tout homme peut comprendre. Ce n'est pas du tout la vision de sagesse qu'on voyait chez saint Thomas. C'est finalement... comment on pourrait traduire, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. C'est tout simplement des lois naturelles, quoi, des, au sens philosophique et pas théologique. On pourrait se demander si la paix est un moyen en vue de la conservation, ou est-ce que la paix n'est pas au-delà. La paix, c'est, si on la regarde d'un point de vue politique, on peut la regarder d'un point de vue moral. Si on, par exemple, saint Thomas dit que la paix, c'est la tranquillité de l'ordre. Si la paix, du point de vue moral, c'est finalement la raison qui assume les passions, qui met de l'ordre dans les passions, et la paix serait un fruit de cette domination de la raison sur les passions. Ici, la paix, c'est un moyen de conservation, finalement. Et il faudrait voir si la paix n'est pas au-delà de la conservation, si ce n'est pas un terme purement politique qui regarde la vie des citoyens, et quelle différence il y a entre la paix et la concorde. Est-ce que la paix est en vue de la concorde ou la concorde en vue de la paix? Ce serait plutôt dans ces eaux-là qu'il faudrait regarder, plutôt que de regarder la paix face à la conservation. Et alors, la fin de l'homme étant sa conservation, tout ce qui est contre sa conservation est à rejeter, et il a le droit de tout faire envers ce qui contredit sa conservation. C'est ça un peu le summum de l'individualisme de Hobbes, c'est que c'est une liberté absolue, tout ce qui est contre sa conservation et pour sa préservation, eh bien, il doit le refuser ou l'accepter. Ce qui fait que c'est une guerre incessante entre les individus, forcément. Mais alors là, il se place dans un point de vue de l'état nature, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore la société. Quand il définit ce qu'est le droit de nature, il insiste beaucoup sur la liberté. Mais pour lui, la liberté, ce serait plutôt un peu celle de l'animal, parce que c'est pas du tout quelque chose de positif, c'est une absence. C'est une conception qu'on trouve souvent actuellement. La liberté est une absence d'obstacle extérieur. Et en fait, c'est être libre, c'est agir selon l'impulsion du moment. C'est une vision un peu curieuse. C'est vrai que le premier droit qu'on a, c'est le droit à la vie et à tous les moyens nécessaires à la vie, la nourriture, etc. Mais l'esprit humain est capable de dépasser ça. Par son intelligence et sa volonté, l'homme est capable de dépasser, comment dire, son droit le plus fondamental. Ce n'est pas vivre pleinement que de tout faire pour sa conservation. Parce que notre vie est premièrement une vie de l'intelligence et de la volonté, et pas une vie végétative ou biologique. Et un autre point qui est important, c'est que dans l'état de nature, tous les hommes ont droit à toute chose. forcément, puisque c'est en lien à ce que je vous disais tout à l'heure à propos de la conservation. Il n'y a pas de propriété. Puisque tous les hommes ont droit à toute chose, il n'y a pas de propriété, c'est-à-dire que aucun individu ne peut dire « cela m'appartient, tu n'as pas le droit de me le prendre ». Alors là, c'est un petit peu... On voit que la société, finalement, va permettre à la propriété d'être gardée, c'est-à-dire que n'importe qui ne pourra pas nous voler. Tandis que pour Rousseau, c'est parce que la société a fondé la propriété qu'elle est perverse. C'est le début du discours sur l'origine de l'inégalité, où il prend l'exemple de celui qui enclôt un terrain, qui est l'instigateur de la société civile. Je crois qu'on peut dire que, comme en philosophie réaliste, c'est la réalité qui est notre point de départ, chez Hobbes, c'est sa conception de l'homme qui est un peu le principe de toutes ses philosophies politiques. Mais sa conception de l'homme n'est pas la réalité précisément, parce que c'est imaginatif et que c'est en fonction d'un idéal qui projette cet état de nature. Je crois qu'on peut dire que c'est un peu ce qui explique tout, qui explique toute la société. Il y revient sans arrêt. Pour nous, on part de l'effet, c'est ce qu'on voit, et puis on arrive à on recherche la cause qui est cachée. Tandis que pour Hobbes, c'est ce qu'il faudrait faire en philosophie politique, et pour Hobbes, c'est le fait, c'est-à-dire que la société n'est pas acceptée, et il essaye de justifier la société en essayant de trouver la cause de cette non-acceptation, qui est précisément sa conception de l'homme. Alors tout à l'heure, je vous disais que la volonté humaine est orientée vers l'intérêt personnel. C'est-à-dire que c'est la volonté qui crée son bien en le voulant. C'est vrai que la volonté est liée au bien, mais c'est parce que le bien est bien qu'il est voulu et pas l'inverse. Il n'y a pas de bien réel. Pour Hobbes, il n'y a pas de bien réel, il n'y a aucune objectivité dans le bien. Et c'est parce qu'il n'y a aucune objectivité dans le bien que tous les hommes ont des biens différents. Et ayant des biens différents, ils sont portés vers des biens différents et parfois ça cause des problèmes. Et c'est un peu sur ce fait que la volonté, disons qu'il n'y a pas de bien propre à la volonté, que suivant un peu à la façon de l'animal, l'homme regarde le bien s'il a l'espérance, c'est le terme qu'emploie Hobbes, ou il rejette le mal s'il y a la crainte. C'est un peu à cause de l'espérance que l'homme agit et à cause de la crainte qu'il refuse d'agir. C'est en fait l'espérance et la crainte qui déterminent le bien ou le mal. On peut dire que ce sont les deux moteurs de la volonté, et c'est ces deux moteurs sur lesquels le gouvernement va pouvoir agir pour faire respecter des lois. Eh bien, il va mettre quelque chose qui puisse favoriser l'espérance, ou au contraire pour empêcher de faire quelque chose qui est interdit, eh bien il va mettre une punition ou un châtiment. C'est pour ça que Hobbes sera si furieux contre les catholiques qui prétendent, les chrétiens qui prétendent mettre une récompense éternelle au-delà de toutes les récompenses politiques qu'on peut imaginer, parce que c'est grâce à cette récompense éternelle l'homme obéit beaucoup plus facilement aux ordres que lui donne l'Église que la religion chrétienne, que dans la politique, où la récompense peut être bonne, mais de toute façon reste temporelle. De même, le châtiment, il est éternel dans le cas de la religion chrétienne, tandis que l'État ne peut pas. Alors, je ne sais pas si on pourra en discuter après. À mon avis, il y a une petite confusion entre le problème éthique et le problème politique. Parce que Hobbes met la politique en premier. Et l'éthique en second. Parce que finalement, c'est la société qui permet l'épanouissement de l'homme. C'est là où il faut voir le lien entre l'éthique et la politique, toujours le gros problème. On peut peut-être dire que l'éthique, ce serait plutôt au niveau du, pour employer un terme grec, le thiesti, c'est-à-dire qui regarde ce qu'est le bonheur, c'est-à-dire la finalité de l'homme. Et puis aussi, d'une façon, disons, théorico-pratique, comment l'homme peut arriver à ce bonheur avec tout le problème des vertus. Et puis viendrait la politique, qui serait inclue en éthique, liée au problème des vertus. Parce que pour acquérir les vertus, l'homme doit nécessairement vivre en société. Ce serait plutôt au niveau du comment. On ne peut pas acquérir les vertus en étant seul. Et vouloir séparer l'homme de la communauté, c'est utopique. C'est la vision de Rousseau, mais ce n'est pas possible. La vie commune est nécessaire à l'acquisition des vertus, et les vertus étant moyens pour le bonheur, ne déterminant pas, mais étant moyens, il faut la vie commune pour le bonheur, bien que le bonheur soit au-delà de la vie commune. C'est toujours le même problème, la crainte et l'espérance qui meut l'homme. On retrouve là la position d'un Sartre, l'enfer c'est l'autre. C'est par crainte de l'autre qu'on agit ou par qu'on refuse d'agir. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que l'état de nature va être supprimé entièrement par la société. C'est ce qui va entraîner la révolte de Rousseau. C'est précisément pour lui l'état de nature étant ce qu'il y a de meilleur. La société supprime le meilleur. On a exactement, je crois, les deux extrêmes. C'est que pour Rousseau, la société est mauvaise. L'état de nature est bon, mais l'état de nature est bon parce que la société est mauvaise. Et pour Hobbes, c'est le contraire. C'est l'état de nature qui est mauvais et la société est bonne, mais la société est bonne parce que l'état de nature est mauvais. Donc on a le point commun entre les deux, c'est qu'ils se servent du mauvais pour expliquer le bon. C'est toujours en lien avec le problème de qu'il n'y ait pas d'objectivité dans le bien. C'est que le mal existe et le bien se définit par rapport au mal comme étant l'absence de mal, donc ça n'existe pas. Dans une vision réaliste, on dirait que le mal, c'est quelque chose qui manque de bien, mais c'est toujours en référence au bien. Parce qu'il y a l'objectivité du bien. Alors, les lois de nature, il en cite 20, je ne vais pas vous les citer parce que ce n'est pas très drôle. En fait, on pourrait dire que ça correspond aux vertus morales. Et c'est là où il fait une critique virulente de la vertu d'Aristote. D'ailleurs, il faut reconnaître que c'est assez bien dit. Oui, c'est ça. Ils ont voulu que la nature, en parlant d'Aristote, ils ont voulu que la nature des vertus fût posée dans une certaine médiocrité entre deux vices extrêmes, et que les vices logeassent au bout de ses extrémités, ce qui est évidemment faux, car on loue la hardiesse et on la tient pour une vertu sous le nom de vaillance, quelque extrême qu'elle puisse être, pourvu que la cause en soit approuvée. Dès qu'une bonne action de quelqu'un déplaît à un autre, celui-ci lui impose le nom du vice auquel elle a quelque rapport. Vous voyez, c'est encore c'est l'homme qui fait le vice ou le bien, ou la vertu. Comme au contraire, les méchancetés pour lesquelles on a de la complaisance sont revêtues du nom de quelque vertu qui en approche, et qui en a de l'air, s'il le faut ainsi dire. De là vient qu'une même action est louée de ceci et est nommée vertu, pendant que ces autres lui font le procès et la nomment un vice. Mais vous voyez, aucune objectivité. Mais ce qui est de plus fâcheux, c'est que les philosophes n'ont jusqu'ici point trouvé de remède à ce désordre, car ne prenant pas garde que la bonté des actions consiste en cet égard et en cette ordination qu'elles retiennent au bien de la paix, que la malice au rebours et la défectuosité des actions se trouvent en ce qu'elles tendent à la discorde, ils ont bâti une philosophie morale diverse de la loi morale et toute pleine de honteuses contradictions. Ils ont voulu que la nature des vertus fût posée dans une certaine médiocrité entre deux vices extrêmes. D'ailleurs, si on veut dire que les lois de la nature chez Hobbes correspondent à des vertus morales, il ne regarde que celles qui sont plutôt vers la politique, c'est-à-dire la justice, mais il ne parlera jamais de la prudence. La force et la tempérance, il ne connaît pas non plus. Il ne parlera jamais de la prudence, de la force et de la tempérance, et on comprend un peu, parce que la justice, c'est un peu l'État qui éduque l'homme, parce que la prudence, la force et la tempérance, ce serait plutôt l'homme qui s'éduque lui-même. Et ça, l'homme en étant incapable, parce que corrompu par nature, il n'y a pas de vertu comme ça. Alors, il reprend la distinction monarchie, aristocratie, démocratie. Je crois d'ailleurs qu'il inverse l'ordre d'Aristote par esprit de contradiction. Et ces différentes monarchies se prennent des différentes espèces de souverains. Le mot république chez lui a un sens qui vaut pour les trois. Il parle de république monarchique, de république aristocratique, de république démocratique. Bon, vous connaissez bien la distinction, c'est pas la peine de revenir. Un seul, c'est la monarchie. De plusieurs personnes, c'est soit quelques-unes choisies, la république aristocratique, soit tout le monde, c'est la république démocratique. Or, il est contre la distinction qui va avec tyrannie, oligarchie et anarchie, dont parle Aristote, qui sont des corruptions respectives de la monarchie, aristocratie, démocratie. Ce ne sont pas trois autres formes de pouvoir, ce sont les appellations de ceux qui n'aiment pas le pouvoir. Donc finalement, c'est un peu pareil que pour le vice et la vertu. Et c'est en lien avec ce qu'il pense de l'infaillibilité du pouvoir. Le souverain ne peut pas se tromper. C'est pour ça que c'est une absurdité de vouloir se révolter contre le souverain. En philosophie réaliste, on pense que c'est possible, qu'on peut avoir le droit de se révolter contre un tyran. Mais il n'est pas question d'autorité chez Hobbes, il faudrait plutôt parler de pouvoir. La distinction entre autorité et pouvoir, c'est pas commode. C'est peut-être là où on pourrait voir que, un peu justifier ce qu'on dit de Hobbes, quand on dit que sa philosophie est un totalitarisme. Pas trop étiqueté, mais enfin, c'est. Alors, il étend le pouvoir du roi à la famille, c'est-à-dire que la famille est une république et le père de famille est le roi. Parce qu'il distingue deux sortes de républiques, la république d'institution, la ville, etc., et puis jusqu'au pays, jusqu'à l'État. Et puis la république d'acquisition, c'est-à-dire la famille, et puis le rapport maître-esclave. Or, Hobbes parle de l'État comme d'un vivant. Peut-être, c'est peut-être possible, faudrait voir. L'État se nourrissant du travail, le sang de l'État, c'est-à-dire ce qui permet la vitalité de l'État, c'est la monnaie. S'il n'y a plus de monnaie, l'État meurt. Et puis les enfants, ce sont toutes les colonies. Faudrait voir si c'est vrai. Au propos de si l'État est un vivant, ou est-ce que on dit aussi que l'Église est un vivant, faudrait voir. On pourrait dire que l'État est un milieu vital. Il doit permettre l'épanouissement de l'individu, mais étant justement un milieu vital, il doit être relatif au vivant qui y vit, et pas le dominer. Dire la République est un vivant, c'est mettre l'absolu dans l'État, les individus étant relatifs à la vie de la République. Et Hobbes parle en réalité de l'État comme l'est vivant, parce que pour lui, il y a une unité réelle entre les individus, les concitoyens. Je crois qu'il identifie le souverain et le sauveur. Parce qu'il, en fait, il identifie l'État et l'Église en réalité. faudrait se demander si en réalité c'est pas plutôt une théologie politique. Parce que constamment il utilise la révélation de la foi, la révélation, pour confirmer ce qu'il dit. Considérant que l'écriture est au service de sa philosophie politique et pas l'inverse. C'est pas très ordonné, hein, je m'excuse, mais... Il considère que la loi naturelle est une loi immuable, éternelle et divine. Dans l'état de nature, les hommes ne la connaissent pas parce qu'ils se laissent dominer par leurs passions. Elle reste cachée dans l'homme et l'homme est incapable par lui-même de les découvrir. Et c'est justement pour ça que le souverain doit s'imposer, parce que l'homme est incapable. Ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a plus que la vertu de justice, les autres vertus n'existent pas, parce que l'homme n'est pas capable par lui-même de vivre en homme de bien. Alors qu'en philosophie réaliste, on pense qu'une auto-éducation est possible. Ce qui fait que la liberté de l'homme est entièrement supprimée. Cette liberté que l'homme avait dans l'état de nature, qui avait séduit Rousseau, c'est à cause de cela qu'il y tenait tellement, c'était imaginatif, mais il y tenait, elle est entièrement supprimée par la société. Ce qui est important aussi de voir, c'est que dans l'état de nature, c'est le problème de la guerre perpétuelle. C'est que les individus étant tous orientés vers des biens différents, n'ayant aucune raison de se respecter mutuellement, puisque rien n'est à personne, l'état de guerre est perpétuel. Il en parle très très souvent de l'état de guerre. Alors, il faudrait ensuite voir la différence entre la loi civile et le droit civil. Il fait une différence. Pour lui, la loi civile, elle oblige, c'est-à-dire qu'elle enlève la liberté absolue. Tandis que le droit civil, c'est, si on veut, ce qui reste dans les moyens de l'homme, compte tenu de la loi civile, c'est-à-dire ce qui n'est pas inclus dans la loi civile et que l'homme peut encore faire. Et en réalité, il identifie le droit civil à la liberté, puisque l'homme est libre dans la mesure où il n'est pas régi par la loi civile. Finalement, c'est le droit qui fait la liberté. Si j'ai un droit sur toute chose, comme dans l'état de nature, je suis entièrement libre. Et je suis libre, mais dans la société civile, je suis libre en fonction de la loi. C'est la loi qui détermine le droit. Et le droit, c'est la liberté. Je crois que dans une philosophie réaliste, le droit est au-delà de la loi. Ce n'est pas la loi qui détermine le droit. Parce que j'ai le droit, et parfois même le devoir, de refuser une loi civile. Alors, qu'est-ce qui détermine le droit? Peut-être qu'on pourrait dire que c'est le bien, si on reconnaît qu'il y a un bien objectif. Je n'ai pas le droit d'aller contre le bien, et si une loi va contre le bien, j'ai le droit d'aller contre la loi. J'ai le droit d'aller contre le mal. J'en ai même le devoir. En fait, Hobbes identifie la loi et le bien. C'est-à-dire, finalement, c'est l'État qui donne son objectivité au bien. La loi, c'est l'ordonnance de ce qui est bien et de ce qui est mal. La loi ne peut pas aller contre le bien. Elle est nécessairement bonne et juste. C'est pour ça que toute désobéissance à la loi est une injustice. C'est le souverain qui détermine le bien et le mal. Je pense qu'on pourrait dire que Hobbes confond un peu la loi civile et la loi naturelle. Pour lui, les deux sont la même chose. C'est-à-dire que la loi civile, si vous voulez, c'est l'État qui écrit sur un papier les lois naturelles que l'homme est incapable de tirer au fond de lui-même. Mais en réalité, la loi naturelle n'est pas la loi positive. Justement, la loi naturelle, ce serait plutôt du côté du bien, du droit. Il faudrait aussi voir le rapport entre le bien et le juste. Comme c'est le bien qui, comme la loi est forcément bonne, c'est la loi qui détermine le juste et l'injuste. Alors que dans une philosophie réaliste, on dit que c'est le bien. Et c'est parce que le bien détermine le juste que justement c'est peut-être ça qui fait le lien entre la philosophie éthique et la philosophie politique. Je peux vous lire quelques passages pour essayer d'éclaircir. C'est très très logique son argumentation. En fait, il essaye de... Son secours, c'est la logique. Il essaye de... Même si les principes sont faux, il essaye par la logique d'arriver à ce qu'il veut dire. C'est pour ça que c'est peut-être très séduisant. Je vais vous montrer quelques passages où il parle de la tyrannie, de l'oligarchie et de l'anarchie. Quelques vieux auteurs politiques, c'est dans Le Citoyen, quelques deux auteurs politiques ont voulu introduire trois autres espèces de gouvernement opposées à celles que je viens d'établir, à savoir l'anarchie ou la confusion qu'ils opposaient à la démocratie, l'oligarchie ou le gouvernement de peu de personnes qu'ils opposaient à l'aristocratie, et la tyrannie dont ils faisaient opposition à la monarchie. Mais ce ne sont pas là trois sortes de gouvernements séparés. car après tout, ce ne sont que trois noms différents que leur donnent ceux à qui la forme de l'État déplaît ou qui en veulent aux personnes qui gouvernent. C'est pas très solide comme truc, mais... Alors, il y a un moment où on voit très bien le caractère un petit peu imaginatif de l'état de nature. Vu que la royauté n'est autre chose qu'une domination plus étendue et qu'une seigneurie sur un grand nombre de personnes. De sorte qu'un royaume est comme une famille fort ample et une famille est comme un petit royaume. Afin donc que je prenne mon raisonnement du plus haut que je pourrais, il faut que nous rebroussions vers le premier état de nature et que nous considérions les hommes comme s'ils ne faisaient maintenant que de naître et comme s'ils étaient sortis tout à coup de la terre ainsi que des potirons. Alors évidemment, pour lui, il n'y a pas d'amitié entre les citoyens. Puisqu'au contraire, c'est chaque homme pour soi. Il n'y a pas de coopération, de vie commune, c'est vraiment la juxtaposition. Et on le voit un peu quand il parle de l'amitié. Enfin, hors de la société civile, les passions règnent, la guerre est éternelle, la pauvreté est insurmontable. La crainte ne nous abandonne jamais, les horreurs de la solitude nous persécutent. La misère nous accable. La barbarie, l'ignorance et la brutalité nous ôtent toutes les douceurs de la vie. Mais dans l'ordre du gouvernement, la raison exerce son empire, la paix revient au monde, la sûreté publique est rétablie, les richesses abondent, on goûte les charmes de la conversation, on voit ressusciter les arts, fleurir les sciences, la bienséance est rendue à toutes nos actions et nous ne vivons plus ignorants des lois de l'amitié. Ben, la preuve qu'ils mettent des lois dans l'amitié, je trouve qu'ils n'ont pas compris grand-chose. Je vous lis enfin un dernier passage. Et après, je vous lirai un peu ce que pense Hobbes de sa doctrine et la conclusion que fait Hobbes. En cinquième lieu, c'est une opinion séditieuse d'estimer que la puissance souveraine, alors ça c'est contre l'Église, c'est un passage contre l'Église, peut être partagée, et je n'en sache aucune de plus pernicieuse à l'État. Mais on en fait de différents partages, car il y en a qui la divisent en sorte qu'ils laissent l'autorité suprême sur les choses qui regardent la tranquillité publique et les commodités de la vie présente aux magistrats ou aux bras séculiers. Mais pour celles qui touchent le salut de l'âme, ils en donnent la puissance à quelque autre, sur quoi il arrive, à cause qu'il faut être par-dessus toute chose juste, c'est-à-dire homme de bien, afin de parvenir au salut éternel, que les particuliers mesureront la justice, non comme ils doivent aux lois civiles, mais aux commandements et aux dogmes de ceux qui sont, à l'égard de l'État, des personnes privées ou étrangères. Il arrive, dis-je, que les sujets refusent, par une crainte superstitieuse, de rendre à leur prince l'obéissance qu'ils leur doivent, et que cette crainte les fait tomber dans l'inconvénient qu'ils veulent éviter. Or, qu'y a-t-il, je vous prie, de plus pernicieux à la société civile que de faire peur aux hommes de tourments éternels pour les détourner de l'obéissance due à leur prince, c'est-à-dire pour les empêcher d'obéir aux lois et d'être justes. Je vais vous lire le regard de Hobbes sur sa doctrine. Pour ce qui est de ma doctrine considérée globalement, je ne vois pas jusqu'à présent que ces principes ne soient pas un point vrai et approprié et que son raisonnement ne soit pas solide. Ça pourrait être solide, il est solide. Ouais. Car je fonde le droit civil des souverains, ainsi que le devoir, autant que la liberté des sujets, sur les inclinations naturelles connues de l'humanité et sur les articles de la loi de nature. Chose dont nul homme, s'il prétend seulement à ce qu'il faut de raison, pour gouverner sa maison, ne devrait être ignorant. et quant au pouvoir ecclésiastique des mêmes souverains, je le fonde sur des textes qui sont à la fois tout à fait clairs en eux-mêmes et en accord avec le dessein global de l'Écriture. Je suis donc persuadé que celui qui lira ce livre à seule fin d'être instruit par lui le sera. Mais pour ceux qui, par leurs écrits, leurs déclarations publiques ou leurs actions notoires, se sont déjà engagés dans la défense d'opinions opposées, ils ne seront pas si aisément convaincus. Dans ce genre de situation, en effet, il est naturel que les gens, tout en poursuivant leur lecture, dispersent leur attention à la recherche d'objections à ce qu'ils ont lu précédemment. Et celle-ci, en un temps où l'intérêt des gens n'est plus là où était précédemment, où il était précédemment, seront il n'est rien dans tout ce traité, ni dans celui que j'ai précédemment écrit en latin sur le même sujet, qui soit, pour autant que je puisse m'en apercevoir, contraire à la parole de Dieu ou aux bonnes mœurs, ou qui puisse troubler la tranquillité publique. Je pense donc qu'il y aurait profit à l'imprimer, et plus encore à l'enseigner dans les universités, au cas où ceux à qui il appartient d'en juger penseraient de même. Ainsi ai-je conduit à son terme mon traité du gouvernement ecclésiastique et civil, occasionné par les désordres du temps présent, sans partialité, sans courtiser personne, et sans autre dessein que de placer devant les yeux des hommes la relation mutuelle qui existe entre protection et obéissance, chose dont la condition de la nature humaine, aussi bien que les lois divines, tant naturelles que positives, il identifie loi divine et loi naturelle et loi positive. Le souverain est quasiment Dieu. Requiert l'inviolable observation. Sans doute, dans la révolution des États, n'existe-t-il pas de constellation sous laquelle il soit bien avantageux à de telles vérités de naître? Je ne peux penser néanmoins qu'il sera condamné à la présente époque, ni par les juges publics des matières de doctrine, ni par quiconque désire que dure la paix publique. C'est dans cet espoir que je retourne à mes spéculations interrompues sur les corps naturels, dans lesquels, si Dieu me donne assez de santé pour en venir à bout, j'espère que la nouveauté plaira autant qu'elle a coutume de heurter dans la théorie de ce corps artificiel. Une telle vérité, en effet, ne contrariant de profit ou de plaisir de personne, est bien accueillie de tous. Voilà, si vous avez des questions à poser. Ainsi ai-je conduit, sans courtiser personne et sans autre dessein que de placer devant les yeux des hommes la relation mutuelle qui existe entre protection et obéissance, chose dont la condition de la nature humaine, etc. Est-ce que vous avez des questions?
Quelle était la religion de Hobbes?
Hobbes était un protestant.
L'analyse, je crois que c'est bon quand même de situer, peut-être situer maintenant, et dire quels sont les écrits.
Ben, d'abord, le plus gros ouvrage de Hobbes, c'est le Léviathan, qui est très connu, et qui a eu beaucoup d'influence en Angleterre. Ce qui fait que Hobbes est considéré, je ne sais pas actuellement comment ça se passe, mais il a été longtemps considéré comme le plus grand philosophe politique d'Angleterre.
Une très grosse influence.
Très grosse influence, parce que peut-être c'est à cause de sa séduction logique, toute son argumentation.
Je ne dis pas qu'il est protestant, c'est ça qui explique tout. Ça explique tout. Ça explique que, de fait, il ne peut pas y avoir de connaissance sans la foi. Donc la connaissance, la vie, c'est ça que j'aurais aimé que vous auriez présenté d'avance ce point de vue-là, parce que c'est ça qui est intéressant à voir, c'est cette spéculation à l'intérieur. Une perspective protestante, qui au fond, c'est la foi qui nous donne la vérité. Il n'y a pas de vérité en dehors de la parole de Dieu, hein. Je n'oublie pas la position de Luther.
Mais je ne sais pas si c'est son cas, parce que justement, lui, il part de la raison et il vient à l'écriture pour confirmer.
Il vient à la raison pour confirmer. Mais en réalité, justement, c'est toujours la parole de Dieu qui confirme. Et alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que nous sommes à un tournant à la fois, vous voyez, protestant, où il ne quitte pas la parole de Dieu, et en même temps, on voit la position protestante impossible d'être tenue, et à partir de là, la raison qui va passer dans la foi. Mm-hmm. Vous voyez, et c'est ça l'intérêt de d'Hobbes. Et ça explique l'influence d'Hobbes.
Il a séduit à la fois ceux qui n'étaient pas protestants et les protestants.
Je ne sais pas si on peut dire ça, c'est plutôt qu'il a été à l'intérieur du protestantisme un réveil de l'intelligence, de la raison. Oui. Je crois que c'est et là, au niveau politique. Oui. Et c'est pour ça que c'est si difficile.
Il a étudié 8 ans Aristote, et c'est pour ça que les critiques qu'il fait sur Aristote sont sévères. Je peux vous en donner une si vous voulez,
oui,
contre la scolastique.
À l'école de qui?
Quoi?
À l'école de qui?
Ah, ça, je ne sais pas du tout.
Je crois que c'est toute l'école qu'il a eue, mais c'est
toute la logique
d'Octavien.
C'est ça qu'il a dit. Octave se dit disciple de l'Aristote. Et c'est ce courant camien logique, ce que vous avez souligné, il y a tout un aspect logique. En réalité, la philosophie se ramène à la logique. Je peux le dire. C'est ce souci logique là, constamment. Alors j'avais aimé que vous présentiez, parce que c'est ça qui peut être intéressant à voir. Vous avez souligné plusieurs fois que il y a une espèce de très grande solidité du système. S'il y a une très grande solidité du système, vous pourriez préciser quelle était quand même l'intuition première et un peu le terme, comme dans un système logique.
Je crois que là tu...
Il y a une intuition et puis il y a un développement de cette intuition et le souci de confirmer à chaque moment son intuition est vraiment conforme à l'écriture. Et la conclusion que vous avez notée est encore cela. Oui. Alors, quelle était au fond son intuition première pour vous?
Je pense que c'est son état de nature, le point de départ, sa conception de la volonté de l'homme.
Oui. Donc, l'état de nature qui remplace la nature. Il n'y a pas de conception de l'homme, de nature.
Non, non, c'est sûr.
Vous voyez, il y a encore l'influence de Octave. Il n'y a plus la nature. La nature n'existe plus. Il n'y a qu'un état de nature. Il y a un état de nature qui est un état de corruption, vous voyez, le protestantisme. Vous voyez, la corruption, l'homme est corrompu. C'est bien la vision première et l'intuition première de Luther, ça, et du protestantisme. Vous voyez. Et donc, le salut va venir par l'État. Et il compte tout sur l'État. Le prince doit être le sauveur, oui, mandaté, envoyé par Dieu. Alors à ce point de vue-là, on voit bien cette perspective qu'il compte, l'État doit redonner à l'homme sa signification. L'état de nature, c'est très difficile à préciser, cet état de nature. Il est complexe. Oui. Et alors c'est peut-être là où vous aviez passé très vite là-dessus. Moi j'aurais été au contraire. C'est le point que j'aurais développé. J'aurais développé quand vous avez vu les lois de nature. Est-ce que ce n'est pas ça qui nous donne toute la systématisation d'Hobbes?
Logique.
Et que si vous supprimez ça, vous ne voyez plus une nervure. Oui. Parce qu'au fond, que signifie dans Hobbes loi? Le mot loi revient constamment. Alors, vous prenez dans le sens que vous avez de la loi. Est-ce que loi chez Hobbes, alors vous avez souligné la loi de l'amitié, n'est-ce pas? Alors, est-ce que dans Hobbes, le mot loi n'a pas une signification totalement différente?
Parce que pour lui, la loi, c'est plus que l'aspect de la nation.
La loi, c'est l'ordre.
C'est l'ordre.
C'est-à-dire, c'est, vous voyez, au point de vue, puisqu'on ne fait plus la distinction entre le point de vue métaphysique et le point de vue logique, donc la loi, c'est l'ordre, c'est le logos. Donc c'est ce qui est intelligible. En dehors, c'est pour ça que c'est si important les lois de nature, parce que c'est par là que vous voyez l'intelligibilité qu'il y a de l'état de nature. L'état de nature par lui-même est inintelligible. Il part dans tous les sens. C'est la complexité. C'est le ça de Freud. Vous voyez, le S. Vous retrouvez la même chose. Vous voyez, il y a un état de nature qui est le premier, qui est quelque chose d'indéterminé, parce qu'il y a une confusion entre nature et état de nature. La nature, ça n'existe plus. Donc il n'y a plus que l'état de nature, et l'état de nature, c'est la complexité. Et alors, pour essayer de comprendre un tout petit peu l'intelligibilité de cette complexité, c'est-à-dire ce que nous dirions, que tout est énorme de la nature, ce sont les lois de nature. Et c'est ça qui est très curieux. Ces lois de nature, alors, donnent l'intelligibilité qu'on peut avoir, et c'est à partir de ces lois de nature qu'on va construire tout point de vue politique. Vous voyez ? C'est pour ça que le métaxu par lequel vous pouviez comprendre l'organisation de d'Hobbes, c'était de regarder les lois de nature. Vous voyez, c'est pas très drôle. C'est pas très drôle. C'est vraiment, je crois, ce qui est le plus intéressant pour Hobbes. Parce que c'est par là que vous pouvez saisir la possibilité de passer de l'état de nature à un seul. Alors vous avez essayé le premier, c'est évident, la paix. Parce que dans l'état de nature, il n'y a que la guerre, il y a la lutte. Et donc la loi, l'intelligence première que vous devez saisir dans l'état de nature, la première manière dont vous pouvez essayer de sauver, c'est d'ordonner la paix. Oui. Et la paix, c'est vraiment alors un ordre qui soit, on va dire finalisé, parce qu'il n'y a pas de finalité pour lui au sens absolu, mais au fond, le remplacement de la finalité, c'est la paix. C'est-à-dire une finalité immanente. Parce que la paix, c'est la fin immanente de la communauté. Oui. Alors vous n'avez plus une fin extrinsèque, mais vous avez une fin immanente. Et c'est cette fin immanente qui va commander tout. Oui. Parce qu'il y a quand même un aspect de réflexion à l'intérieur pour essayer de retrouver cette espèce d'harmonie qui n'existe absolument pas au niveau de l'état de nature. Et pourquoi ça n'existe pas à l'état de nature ? Parce que l'homme est né dans le péché. Vous voyez, donc toute la perspective luthérienne, toute la perspective protestante qui est là. Vous voyez ?
Est-ce que pour Hobbes, l'état est vraiment là pour donner le salut à l'individu ? Est-ce que c'est l'individu qui est au service de l'état ? Parce que Léviathan, c'est quand même... C'est l'État qui est un monstre et dans lequel chaque individu est un rouage.
C'est l'État qui est un monstre et en même temps l'État sauveur.
C'est parce qu'il est monstre qu'il est sauveur.
Oui. Il y a les deux. Et que vous ne pouvez pas vous en sortir sans l'État. Vous voyez ? Alors là, la confusion. Vous voyez ? Confusion. C'est ça qui est extraordinaire, je crois. C'est hallucinant. C'est absolument hallucinant. Et c'est très important parce que ça fait comprendre tout le monde moderne. Toute l'exégèse moderne est dans Léviathan. Toute la partie exégétique est dans Léviathan. Il y a toute une partie exégétique qui est extraordinaire et qui est de fait l'exégèse moderne. Alors quand vous la retrouvez dans Léviathan, et c'est absolument à point de vue-là, il est génial, mais c'est un génie malfaisant, un génie terrible. Oui. Et alors, je crois que ça, c'est quand même, c'est très important de saisir cette manière dont il conçoit, vous voyez, l'Église. Vous l'avez souligné à un moment donné. Mais c'était un petit peu, vous aviez une peinture pointillée, tu vois. Je comprends que c'est difficile, c'est très difficile. C'est très difficile d'exposer le Léviathan, c'est très très difficile. Et j'aurais mieux aimé vous entriez à fond dedans, sans faire aucune référence à la philosophie réaliste. Parce que c'est toujours à côté. Il faudrait mieux entrer à fond dans les Léviathan. Du reste, de façon générale, c'est ce qu'il faut faire. Quand on expose quelque chose, il faut d'abord l'exposer pour lui-même, en essayant de comprendre l'intelligibilité et l'ordre qu'il y a dedans. En donnant les présupposés, si vous voulez, en montrant justement le milieu dans lequel il a vécu, ce qu'il a pris des études d'Aristote, qui n'étaient pas les véritables études d'Aristote, mais qui étaient l'Aristote logique. L'Aristote classique, si vous voulez, au point de vue scolastique, c'est-à-dire mais exposer le système. Mais ce n'est qu'après, je crois, d'une façon générale, c'est ce qu'il faut toujours se rappeler, surtout quand on est en rapport avec, je dirais, si dans la mesure où on a des rapports avec l'université de Lyon, il faut à tout prix que nous ayons tous le respect du texte. Et le respect du texte, c'est-à-dire un homme a écrit un livre, on essaie de comprendre ce qu'est le contenu de ce livre. Et on n'a pas le droit de critiquer sans l'avoir d'abord exposé. Mais ça, c'est une erreur de méthode, de vouloir à chaque moment. Du début, il y a deux manières, mais il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Il faut d'abord exposer, voyez, surtout pour un séminaire, mais de façon générale, il faut d'abord exposer le livre. Vous auriez un professeur d'université que vous aurez écouté. Je me suis mis dans cette position-là. Alors, il croit avoir la vérité. J'appelle ça une philosophie réaliste. Voyez. Je crois qu'on doit d'abord exposer ce que lui nous donne. Donc le Léviathan, on expose. On voit sa logique interne. On voit ce qu'il dit par rapport à l'homme. Ce qu'il dit par rapport au salut de l'homme et de béatitude de l'homme. Ce qu'il, vous voyez, on cerne un peu les limites, les déterminations et les limites. Puis on peut voir alors ensuite, après, quelles sont les confusions. Et quelle est la confusion majeure? Je vous demanderai maintenant, quelle est la confusion majeure qu'il y a dans les Léviathan? Pour vous.
Mon avis, c'est la volonté, l'homme veut tout le temps pour son intérêt personnel.
C'est-à-dire la volonté au-dessus du bien et du mal.
D'abord, c'est l'homme qui crée son bien en le voulant. Il n'y a pas d'objectivité dans le bien.
Et ceci provient de quoi? Est-ce que c'est un reste de l'état de nature, ou est-ce que ça provient justement d'un homme qui est sauvé? Est-ce que l'état de nature nous met dans une subjectivité absolue? Et cette subjectivité absolue, vous la découvrez dans le fait que la volonté crée le bien.
Ça, c'est l'homme dans l'état de nature.
C'est l'homme dans l'état de nature. Et cet homme dans cet état de nature doit être sauvé par le point de vue de l'état. Mmh. Quand il est sauvé par l'état, est-ce que nous retrouvons la même chose, ou est-ce que nous retrouvons une objectivité?
L'objectivité, elle est plaquée de l'extérieur par le souverain.
Donc, par la loi.
Par la loi.
C'est la loi qui vient donner une objectivité à la subjectivité première. Donc il y a une nostalgie, si j'allais dire, profonde de retrouver l'objectivité. Et cette objectivité, on la retrouve par la loi positive, comme vous avez souligné, qui est aussi bien la loi de nature. Et ça, c'est très vrai. Confusion entre le point de vue de la loi positive et la loi naturelle. Je crois qu'il n'y a pas de distinction. Et il y a même une confusion entre la loi éternelle, la loi de nature et la loi positive. Je crois qu'on peut dire les trois. Oui. La loi est en brique comme un ordre. Alors, c'est très vrai, c'est que l'homme laissé à lui-même dans sa volonté de puissance, crée le bien. Et que ce n'est que par le point de vue de l'État qu'il peut découvrir quelque chose qui est au-dessus de sa propre passion, pour découvrir un bien universel. Vous voyez, alors, vous trouvez le point de vue logique. C'est que le bien universel de la loi est supérieur à ce bien individuel de l'individu. Ce qui est une vieille chose très ancienne que l'on trouve déjà chez les stoïciens. Chez les stoïciens, on trouve que le point de vue de la passion individuelle est toujours quelque chose de mauvais. Et qu'il faut dépasser ce point de vue individuel et passionnel pour redécouvrir quelque chose d'universel. Alors, c'est très connu de retrouver ça dans cette perspective où la pensée, de fait, est une pensée logique. Dans la pensée logique, c'est l'universel qui domine tout. Oui. Et l'universel seul peut être bon, en dehors de l'homme, des points de vue individuels et passionnels. Oui.
Qu'est-ce qui fonde l'infaillibilité du souverain dans son système ?
C'est la foi.
C'est la foi. Parce qu'on avait dit. Sur saint Thomas que s'il y avait une politique proprement chrétienne, il n'y aurait pas besoin de l'infaillibilité pontificale. C'est intéressant de voir que si l'infaillibilité du souverain est nécessaire, ça voudrait dire aussi qu'il n'y a pas.
L'Église étant supprimée, il faut retrouver dans l'État le point de l'Église. Et on redécouvre dans le point de l'État le point de l'Église. L'infaillibilité à la phase du côté du pape.
La mettre du côté du souverain. Mais ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de principe, c'est toujours pareil. Comme il n'y a pas de principe, il faut en fabriquer un.
Il faut fabriquer une source.
Et ça, on la fabrique de toutes pièces, en fait.
Ah, tout à fait. De toutes pièces.
Hobbes la fabrique de toutes pièces.
Oui, non, mais est-ce que Hobbes la fabrique de toutes pièces ou est-ce que. Il y a quelque chose.
Est-ce qu'il est reçu quand
même ? Est-ce que c'est une conséquence logique de son système ?
Voilà. Ou est-ce que c'est un point de départ de son système ? Ou est-ce que c'est une conséquence ? Parce que ça change tout.
C'est pour ça que je dis, c'était le point de vue que je voulais vous poser, en disant, il reconnaît que le système de Hobbes a une très grande logique. S'il y a une très grande logique, on doit pouvoir préciser quel est le point de départ. Et quel est ce qui est construit ? Alors, vous touchez un point important, qui est le point de vue du pouvoir dans son infaillibilité. Est-ce que c'est le fruit d'une construction ? Ou est-ce que c'est un point de départ à partir duquel ?
Non, c'est inclus dans un système logique.
Oui, mais inclus dans un système logique. Très bien. Et je inclus comme point de départ ou comme terme ?
Il est au milieu, je crois.
Qu'est-ce qu'il y a ?
C'est au milieu.
Donc, comme les taxis. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce qui est avant et qu'est-ce qui est après ?
Mais c'est dans les lois de nature, je crois.
Oui, mais qu'est-ce qui est indépendamment ? Comme vous l'avez compris. C'est ça qui m'intéresse maintenant. C'est de voir ce que vous avez saisi. Qu'est-ce qui sera antérieur ? Vous dites, t'as mis taxis. C'est pas si bête, hein, c'est un mitaxum. Parce que je crois qu'en effet, c'est un mitaxum, c'est pas un terme. Mais peut-être c'est une condition sine qua non pour que tout tienne, soutienne.
Oui, certainement. Mais chaque état logique, si on l'enlève, tout tombe.
Oui, tout tombe. Mais comme mitaxum, qu'est-ce qui est avant, qu'est-ce qui est après ?
Avant l'infaillibilité, c'est ça ?
Oui, avant le pouvoir infaillible. Puisqu'en fond, vous dites que c'est un intermédiaire, donc ce n'est pas un a priori.
Mmh.
C'est quelque chose qui est présupposé par autre chose. Et puisque c'est un métaxique, qu'est-ce qui vient après ? Oui. Pour que je comprenne bien ce que veut dire cette infaillibilité du pouvoir.
Ce qui vient après, c'est que celui qui s'oppose au pouvoir est forcément injuste.
Et ce qui est le fruit, donc, c'est le point de vue du salut. C'est le salut du citoyen. Pour être sauvé, il faut être dans la vérité, dans le juste. Et pour être sauvé, il faut donc nécessairement se conformer, obéir à quelque chose qui est infaillible. Comment je peux être sauvé ? Bon, ça, je vois le terme.
Non,
c'est là, hein. Et c'est là, c'est ça que j'aurais aimé dans votre effort. Vous constatez que c'est très logique. Mais je ne crois pas que beaucoup qui vous ont entendu pourraient montrer que c'est très logique. Je ne sais pas. S'il y en a parmi vous qui ont saisi le point de vue logique de Hobbes d'après l'exposé, j'aimerais bien qu'ils me le disent. Vous l'avez affirmé. Et c'est très vrai. C'est très vrai que c'est logique. C'est la logique. Sa pensée est une pensée logique. Ce n'est pas une pensée philosophique. Mais justement, quand on saisit que quelqu'un comme Hobbes est très logique, il faut montrer comment logique. Point de départ, métaxu, le terme.
Ouais, on peut peut-être essayer.
Ah oui.
Je crois que la première...
Oui, dites, allez-y.
Le premier, c'est... il ne l'avait pas dans les lois de nature, mais ça regarde l'homme, c'est que sa volonté est orientée vers l'intérêt personnel.
Ça, c'est l'état de nature.
Ça, c'est l'état de nature.
C'est l'état de nature.
Et que...
un aspect de l'état de nature.
Oui. Que par conséquent, la finalité de l'homme, c'est sa conservation.
Est-ce qu'il parle de finalité ?
Il parle... Oui, oui, je crois qu'il parle de finalité.
Oui. C'est pas volonté.
Comment ?
Volonté.
Disons...
C'est efficacité.
Oui, c'est ça.
C'est efficacité.
Disons que la fin, c'est la conservation. Oui. Et toutes les lois de nature sont des moyens pour cette conservation.
Donc toutes les lois de nature sont des métaxus.
Voilà.
Logique.
Et ça, finalement, c'est le point de départ. Logique.
Bon. Ça, c'est le point de départ logique. Le point de départ logique, c'est la constatation d'un état de nature extrêmement complexe et qui, au fond, est uniquement tourné vers l'individu. Alors.
Alors après, le premier moyen pour la conservation.
Donc l'été, état de nature, parce que c'est important, oui. Ça, c'est un métaxu. Vous voyez que c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est les lois de la nature qui nous donnent l'intelligibilité, parce que c'est toujours le métaxu qui donne l'intelligibilité.
C'est ça. Ça, c'est un peu a priori. Et puis...
l'état de nature, c'est un fait, ouais. C'est un donné pour lui. Je ne crois pas que pour lui, c'est l'a priori. Mais c'est un donné. Et c'est un donné qui provient de sa foi protestante. Voilà. Sa foi protestante fait considérer l'homme comme dans cet état de nature un état de corruption. Bon. Alors, les lois de nature.
On a les lois de nature.
Ah, les lois de nature.
Qui sont en fait les lois civiles.
Combien ?
20.
20.
Alors, la première, c'est la fête.
Est-ce que c'est le premier selon un ordre de perfection ou le premier selon un ordre d'efficacité génétique ? C'est intéressant. Ça. Quel
c'est dans l'ordre de perfection. C'est dans l'ordre de perfection. Parce que ça, c'est, si on veut, c'est le terme. Et ça, c'est pour le terme, en fait, c'est ce qu'il y a de plus proche.
Quel second la loi naturelle ?
Alors, ce qui est pour. La paix est pour la conservation. Oui. Alors, pour la paix.
La paix est pour la conservation, parce que la conservation, c'est ce qui termine tout, ce qui achève tout.
Après, c'est beaucoup moins.
Quel second ?
C'est beaucoup moins en ligne comme ça, c'est plutôt. Comment dire ?
Quelle seconde c'est plus ? C'est très important, je crois, les lois de nature. Moi, j'ai toujours l'impression que c'est les lois de nature qui nous donnent les métaxus. Comme c'est logique, vous comprenez, on ne peut le comprendre que par les métaxus. C'est une projection sur l'état de nature qui est tellement difficile à comprendre que ça nous donne certaines possibilités d'un certain ordre. Oui. Certaines intelligibilités. Bon. Alors, continuez. Les lois de nature, après. C'est pour situer, hein, c'est pour situer le point de vue de la faillibilité du prince. Pour que nous comprenions comment, dans son système, provient cette projection de l'infaillibilité du prince. Vous comprenez bien qu'il pense à l'infaillibilité du pape. C'était bien dit. Ça ne peut pas être autrement. Pour montrer que nous n'avons pas besoin de l'infaillibilité du pape, parce que nous avons l'infaillibilité du prince. C'est intéressant de voir comment ça se construit. Alors, où est-ce que vous mettriez ? Est-ce que vous essayez de voir ce qui est avant et ce qui est après ?
Oui, l'infaillibilité, c'est quasiment là.
C'était une question. Mais logiquement, l'infaillibilité, c'est parmi les lois de la nature.
Voilà.
Ah, et c'est quelle loi de la nature ? Quel numéro ? Ce que je veux, c'est que vous appreniez à lire un texte, vous voyez ? Parce que c'est très important. Hein, attends. On doit entrer dans le texte et puis essayer de retrouver à l'intérieur d'un texte toute son intelligibilité. Pas ce qu'on comprend en premier lieu. Il faut lire et relire, Léviathan, il faut lire et relire pour trouver l'intelligibilité. C'est tellement autre que notre pensée habituelle. Vous voyez ? Alors, si on veut en découvrir l'intelligibilité, il faut lire et relire, ça c'est sûr. Et petit à petit, on voit, ça se dégage, il y a une espèce de logique interne qui se montre. Alors, l'infaillibilité, c'est quel numéro ? Pour savoir ce qui est juste avant. Vous avez mis la référence dans votre texte ?
Comment ?
Dans votre texte, vous avez mis la référence.
Non, je n'ai pas mis la référence. Ouais.
Et là encore. C'est pour que tout le monde comprenne. Quand vous faites une chose, mettez toujours les références. Toujours. Vous avez un texte qui vous est donné. Vous devez entrer dedans. Bon, je suis tout à fait d'accord, en le lisant, vous mettez des notes. Vous mettez tout de suite les références. Pour que vous puissiez tout de suite comprendre. Parce qu'autrement, on a des tas de choses, des tas d'éléments, mais c'est pas construit. Bon, alors, regardons, loi de nature, l'infaillibilité. Et l'infaillibilité va conduire à quoi ? Si les lois de nature sont le métaxu, ce que vous avez dit, l'infaillibilité est un métaxu. C'est donc pouvoir sauver l'homme de son impossibilité d'atteindre par lui-même la vérité. Et vous mettez quelque chose qui vous donne la possibilité d'une voie sûre. Certaine. L'infaillibilité donne la certitude. Oui. Donc, c'est toujours en vue de la conservation et aussi peut-être, alors c'est là qui serait très intéressant à voir, c'est pour ça que j'aimais l'analyse des lois de nature, voir dans quelle mesure l'infaillibilité est ordonnée à la paix. Voyez. Toutes ces lois de nature impliquent-elles un certain ordre entre elles pour la paix ?
Oui.
Bon, alors à ce moment-là, vous voyez que l'infaillibilité est en vue de la paix et la paix est en vue de la conservation. Donc vous voyez bien que l'infaillibilité aboutit à une nécessité. Vous posez infailliblement l'infaillibilité, au point de vue logique, hein, parce qu'il faut que l'homme, dans cet état de nature, puisse arriver à la conservation. Pour arriver à la conservation, il faut passer par la paix. Et pour qu'il y ait la paix, il faut y la vérité. Or, l'homme, dans son état de nature, est incapable d'atteindre la vérité. Il faut donc, nécessairement, puisque est présupposé au point de vue théologique, quand même, que Dieu veut notre bonheur. Ça, c'est présupposé. Il faut donc qu'il y ait la faillibilité du prince. Oui. La logique. Et ceci, c'est parce qu'il faut arriver par la paix à la conservation.
Parce que Dieu veut notre bonheur.
Ah oui, c'est présupposé ça. C'est présupposé.
Le bonheur est dans la conservation.
Le bonheur est dans la conservation, oui, de l'homme qui ne se détruit pas.
Le vrai point de départ serait la foi.
Ah, le vrai départ est la foi. Moi, je suis persuadé que c'est la foi. Il est protestant, il ne faut pas l'oublier. Mais il y a un protestant qui se met à réfléchir, et c'est un des premiers moments où progressivement on voit Oui, comme pour Hegel, si vous voulez. On voit comment la foi protestante, qui n'est plus la vraie foi, va être absorbée par la raison, ou absorbée par la logique. Ce qu'on a déjà choqué. Oui, la grande opposition de Luther par rapport au Kant, c'est que la foi est absorbée par la logique. Et les petits-fils font la même chose.
Chez Hegel,
c'est la même chose. La foi est absorbée par par l'intelligence, par la raison.
Et chez les deux, l'État pour l'importance.
Et l'État devient absolu. Il y a un parallélisme entre les deux. Mais c'est évident que c'est la foi qui devrait nous parler. C'est pour ça que la parole de Dieu est toujours la confirmation de la parole de Dieu, qui revient tout le temps. Parce que le raisonnement par lui-même ne peut pas être fort. Il y a la foi qui nous est donnée. Et la foi nous montre que Dieu, il est là. L'image de Dieu est quand même sous-jacente, il n'en parle pas, je crois, de l'image de Dieu. Mais c'est l'état de nature à cause du péché.
Et dans ces conditions, comment est-ce que la foi peut coexister avec la raison?
Elle est absorbée par la logique. Votre foi est complètement absorbée par la logique. Donc il n'y a plus de foi. Ça qui est effrayant. Et c'est l'envoie ce que c'est que la foi. Une foi est intègre. Le jour où la foi n'est plus intègre, elle n'est plus la foi. Elle n'est plus une vertu là. L'opinion ne tient pas devant la raison. Et devant la vie.
Et puis la foi, elle demande que d'être vécu.
Ben oui, elle devient une vertu théologale. Alors c'est ça qui est terrible. Une fois qu'il y a une intégrité dans la foi. Vous pouvez dire, moi, Georges, j'ai la féminité du pape. Non, je n'ai pas ça, je n'en ai pas besoin. Bon, je la supprime. Je supprime la tradition, je prends. On se sert comme on veut. Le jour où on fait ça, il n'y a plus la foi.
C'est le fidéisme qui conduit à ça.
Ah, je crois que c'est plus radical, c'est la réforme. C'est le maître que l'intelligence humaine est capable de raisonner pour voir ce qui est bon. On assiste exactement à la même chose aujourd'hui chez les intellectuels.
Et c'est un des dangers du fidéisme poussé à l'extrême.
Oui, mais c'est le danger, je crois, plus profond de toute critique individuelle par rapport à l'objectivité de la tradition et de l'enseignement de l'Église. On dira, la tradition se termine avec Pie XII. Et qu'est-ce qui vous dit que la tradition se termine avec Pie XII? Personne ne vous le dit. Donc le jour où vous dites que la tradition se termine avec Pie XII, vous ne croyez plus en la tradition. Parce que c'est vous qui mesurez. C'est la logique. Il prend le pas sur l'intelligence. Moi, ça m'a toujours beaucoup frappé. Chez l'avènement, par exemple, chez les choses, c'est la logique qui prend le pas sur la foi. Et c'est la logique qui mesure la foi. Et donc, au bout d'un certain temps, il n'y a plus de foi. Et on verra bien, le succès d'année, il n'y aura plus de foi du tout. Il y a peut-être la foi au point de départ, il reste quelque chose, mais puisqu'au fond, la foi est mesurée par le point de vue de la logique,
parce qu'on en arrive même dans l'application à faire des choses qui sont contraires à la foi.
Tout à fait contraire. En opposition. Bon, très bien. Merci.